VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Dakar, 17h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En Centrafrique, l'annonce du retrait du contingent de la RDC, de la MINUSCA, la mission onusienne sur place, est diversement appréciée. Parmi les réactions, celle de l'ambassadeur congolais Esdras Kambali-Baekwa, qui dit que Kinshasa prend acte de la décision de l'ONU tout en déplorant la manière avec laquelle elle a été prise.
Que ce soit les autres forces au sein de la MINUSCA, que ce soit au niveau de la population de la République centrafricaine, le contingent de la RDC est très apprécié. Je voudrais mettre à défi quiconque pourra me contredire. Mais ce contingent travaille sous l'ONU. C'est lui le mari. Quand il dit qu'il n'a plus besoin de sa femme ou d'un enfant, qu'est-ce que vous voulez que la RDC puisse faire? La RDC plie bagage et rentre au village. Mais personnellement, je pense que ce n'est pas de cette façon qu'il faut remercier un contingent qui a travaillé et qui a bien travaillé. On me parle de cas de violence sexuelle, abus sexuels. Ben, un contingent de 800 personnes. Pour 4 cas d'abus sexuels et qui ne sont pas avérés, que nous, la RDC, nous n'avons pas accepté. On remballe tout un contingent. Nous sommes tous des Africains. Nous comprenons. Il doit y avoir beaucoup d'en dessous des cartes.
Esdras Kambali-Baekwa, ambassadeur de la RDC à Bangui. En RDC même, 7,5 millions de personnes, soit près de 9% de la population, sont frappées par une crise humanitaire aux proportions massives. L'ONU estime à 690 millions de dollars les besoins d'assistance humanitaire de l'ensemble du pays cette année. Éric Manirakiza.
Selon le plan de réponse humanitaire 2016 pour la RDC, publié hier par l'ONU, les personnes déplacées sont particulièrement vulnérables et sont souvent accueillies par les foyers démunis. La moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. Choléra, paludisme, rouge jaune et fièvre hémorragique font des ravages, a écrit l'Organisation internationale. Le bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires prévoit 690 millions de dollars pour assister 6 millions de personnes cette année sur 7,5 millions de personnes dans le besoin, soit près de 9% de la population du pays. L'Est de la RDC demeure la partie la plus frappée avec plus de 1,6 million de déplacés internes l'an passé. Mais la situation de conflit en Centrafrique, au Soudan du Sud et au Burundi risque d'engendrer de nouveaux besoins humanitaires avec l'afflux de nouveaux réfugiés vers le Congo, a déploré l'ONU.
Au Soudan du Sud, les garants de l'accord de paix appellent les belligérants à permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans des zones de conflit où des dizaines de milliers de personnes risquent de mourir de faim. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
L'ancien président botswanais Festus Mogae, chef de la commission de surveillance et d'évaluation de l'accord sud-soudanais, en visite à Djouba, a assuré que seule une fraction de la nourriture d'urgence a pu être acheminée en raison des restrictions imposées aux convois d'aide. En octobre, des experts de l'ONU avaient mis en garde contre un risque concret de famine en cas de poursuite des combats dans certaines zones inaccessibles aux agences humanitaires. Ces zones se situent dans l'état septentrional d'Unité, l'un des principaux champs de bataille où, selon les agents de l'ONU, 30 000 personnes risquent de mourir de faim. Les combats se sont poursuivis malgré l'accord de paix conclu en août dernier entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Cet énième accord prévoit la mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui tarde à voir le jour.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. Ce gouvernement fait une large place aux femmes qui sont maintenant 9 dans le gouvernement, soit un quart des effectifs. Il y a 36 ministres contre 31 pour l'équipe précédente. L'ossature du gouvernement reste la même, mais trois portefeuilles importants, la justice, la défense et les affaires étrangères, changent de main. Le ministre de la justice, Guinéda Koulibaly, est remplacé par Sansan Kambilé, ancien magistrat, et aux affaires étrangères, Charles Kofi Dibi laisse la place à Abdallah Albert Mabri, qui était déjà au gouvernement. En Mauritanie, une trentaine de djihadistes incarcérés à la prison de Nouakchott ont entamé une grève de la faim illimitée. Ils exigent l'amélioration de leurs conditions de détention qui, selon eux, se seraient durcies depuis l'évasion d'un détenu djihadiste. Maïlis Egel.
Dans leur communiqué, ces salafistes annoncent qu'ils poursuivront leur grève jusqu'à, je cite, « satisfaction de leurs doléances ». Ils exigent notamment des visites de leurs parents, la présence d'un médecin et la fourniture de médicaments. La trentaine de djihadistes incarcérés estime que des mesures punitives auraient été prises contre eux depuis la fuite d'un prisonnier le 31 décembre de la prison de Nouakchott. Ils assurent n'avoir aucune responsabilité dans cette évasion. Ce fugitif, Saleh Gulcher, 31 ans, a été condamné à mort en 2011 pour action terroriste. Il avait mené avec des membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique une opération à la voiture piégée visant à assassiner le président Mohamed Oul Abdelaziz. Depuis le 7 janvier, Nouakchott a lancé un avis de recherche contre ce fugitif. Son épouse et sa sœur ont été arrêtées pour déterminer leur responsabilité dans son évasion.
À Accra, deux anciens détenus yéménites de la prison américaine de Guantanamo à Cuba, récemment transférés au Ghana, déclarent souhaiter avoir une vie normale et ne pas chercher à se venger. C'est ce qu'ils ont affirmé dans leur premier entretien accordé à une radio publique hier soir. Pour sa part, Washington, qui avait annoncé le 6 janvier le transfert de Mahmoud Omar Mohamed bin Atef et de Khalid Mohamed Salih Al-Doubi au Ghana, assure que les deux hommes ne présentent aucun danger pour le pays, mais le Pentagone va continuer quand même à les surveiller. Et puis un détenu saoudien de la prison américaine de Guantanamo a été rapatrié dans son pays, portant à 103 le nombre de détenus restants dans le camp sur l'île cubaine. John Lydon.
Mohamed Chamrani, 40 ans, est arrivé en Arabie Saoudite d'après Gary Ross, un porte-parole du Pentagone. Il était détenu depuis 14 ans à Guantanamo après avoir été fait prisonnier fin décembre 2001 pour avoir combattu l'offensive américaine contre les talibans. Il était accusé d'avoir été un recruteur pour Al-Qaïda et peut-être un garde du corps d'Oussama Ben Laden. Le Pentagone estime que l'ancien détenu devra participer dans son pays à un programme de réintégration et de réhabilitation auquel est associée sa famille. Guantanamo, créé en janvier 2002 sur l'île de Cuba, après les attentats du 11 septembre 2001, près de 779 personnes ont été emprisonnées à Guantanamo. Mi-décembre, le Pentagone avait annoncé le transfert des 17 prisonniers et il ne restera que 90 détenus dans ce camp. Le président Barack Obama avait, dès son premier mandat, fait de la fermeture de cette prison une promesse, mais s'est résigné à signer à la fin novembre la loi de défense 2016 qui renouvelle en particulier l'interdiction de fermer Guantanamo.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le processus d'extradition vers les États-Unis du baron mexicain de la drogue, Joaquin El Chapo Guzman, prendra au moins un an, voire beaucoup plus, si ses avocats utilisent tous les recours légaux. Chez Rubén Dorcil.
Des représentants d'Interpol se sont rendus dimanche à la prison d'Altiplano, où le baron de la drogue est de nouveau incarcéré, pour délivrer deux mandats d'arrêt aux fins d'extradition. Le gouvernement mexicain a précisé avoir reçu une demande formelle des États-Unis le 25 juin, deux semaines avant l'évasion. Ce processus pourrait durer au moins un an, voire beaucoup plus, a averti hier José Manuel Merino Madrid du bureau du procureur du Mexique. L'avocat d'El Chapo ne se laissera pas faire car il a assuré qu'il mènera une bataille juridique sans fin, pouvant aller jusqu'à la Cour suprême au motif que son client risque la peine de mort aux États-Unis. Le chef du cartel de Sinaloa fait l'objet de poursuites dans plusieurs États américains. Joaquin El Chapo Guzman a été arrêté vendredi, 6 mois après son évasion rocambolesque de la prison de haute sécurité d'Altiplano le 11 juillet dernier. C'était la deuxième fois que le narcotrafiquant s'échappait d'une prison mexicaine après une première évasion en 2001 dans un panier de linge sale.
Et pour terminer, Barack Obama prononce ce soir son ultime discours sur l'état de l'Union au Congrès. Anna Dodson.
Pour le 44e président des États-Unis, ce rendez-vous traditionnel est la dernière occasion de s'adresser aux Américains en prime time, avant que Washington et le reste du pays ne basculent complètement en mode électoral. Candidat démocrate et républicain à la présidentielle s'apprête en effet à entrer dans le vif du sujet, avec le début des primaires le 1er février dans l'Iowa. Axe attendu du discours présidentiel, le rebond de l'économie et le chemin parcouru depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2009, pendant la plus grave crise depuis les années 1930. Le tableau est loin d'avoir impressionné Donald Trump, en tête dans les sondages du côté républicain. Le milliardaire a dressé un bilan autrement plus sombre des années Obama. Le pays ne va pas bien, a-t-il lâché. Nous sommes assis sur une énorme bulle prête à exploser. À 12 mois de son départ et face à un congrès dominé par les républicains, le président Obama veut assurer qu'il a toujours le pied au plancher. La Maison-Blanche en donne pour preuve une série de succès sur des dossiers emblématiques, nucléaire iranien, libre-échange en Asie-Pacifique ou encore changement climatique, avec l'accord de Paris en décembre.
Merci de votre attention.